Mémoire du maraîchage dans l'Albigeois, comment vit la vie, second épisode. Éric Viala nous reçoit chez lui à l'Escure d'Albigeois le 19 juillet 2020, un dimanche, jour de repos pour ce maraîcher de 46 ans. Voici la suite de notre entrevue commencée dans une précédente émission produite dans le cadre du projet Mémoire du maraîchage porté par l'association Albiville Comestible, rebaptisée depuis Terre Citoyenne Albigeoise. Est-ce que vous avez vu évoluer quand même les choses au niveau des aides pour les maraîchers? Parce qu'il y a beaucoup de subventions pour les agriculteurs en général. Mm-hmm. Et le statut de maraîcher, il est quand même assez spécifique. Quoi. C'est un peu compliqué. Vous êtes un peu tout seul quand même.
Oui, et bien moi maintenant, ça fait 26 ans, donc ça commence à dater un petit peu. Oui, quand je me suis installé, j'ai eu droit au prêt bonifié. Même si on pourrait en discuter aussi, mais ça, bon. J'ai droit aux subventions.
Ouais. À l'installation.
À l'installation, ouais, les 15 000 euros sur 3 ans à l'installation, puis les prêts bonifiés, à l'époque c'était du 2%, même si j'ai eu des petits soucis. Pas de mon ressort.
Ouais. Il y a toujours des couacs,
ouais. Surtout quand c'est pas vous qui gérez le dossier, il y a toujours des couacs, il y a toujours un contrôleur qui arrive pour dire « Ah non, mais ça n'a pas été fait comme il faut, donc ça ne veut pas le faire. Ouais. » Je vous raconterai si vous voulez, c'est, bon, ouais. C'est des petits détails, mais qui font que ça chagrine un petit peu.
Au niveau de subvention, donc vous avez eu l'installation, voilà. Ouais, et ensuite, tout. Est-ce que vous avez eu de l'accompagnement de la chambre
d'agriculture? Alors après, c'est un peu plus... Alors après, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le... Une fois qu'on est lancé dans le... Comme on dit, la tête dans le guidon, et qu'on est à fond de cale, sachant qu'on fait plein de petites cultures, sur des petites surfaces, eh bien on fait souvent tout seul. J'ai eu fait appel, sans vouloir les maudire, j'ai eu fait des fois appel à la chambre de culture pour des problèmes de technique de culture, tout ça. C'est pas évident, parce que le technicien à l'époque était pour les cultures, fruits et légumes, maraîchage, fleurs, tout ça. Donc j'ai pas eu forcément toujours de l'aide comme j'aurais voulu. Je me suis souvent démerdé tout seul. Même encore.
Quitte à perdre des cultures parfois.
Ah oui, ça m'est arrivé. Ça, de manière, dans le maraîchage, travailler pour rien, c'est, je dirais, ça fait partie du métier. Ouais. Tout ce qu'on met en culture n'arrive pas au bout, que ce soit maladie, après il y a les mauvaises herbes, il y a le climat, il y a la chaleur, la sécheresse, le trop d'eau. Le timing, des fois, on entreprend plein de choses et puis en chemin, on en laisse un peu parce qu'on s'aperçoit qu'on ne pourra pas tout mener. Et ça arrive régulièrement parce que de temps en temps, on s'emballe, on dit putain, là, faire ça, on est motivé et puis au bout de 3 mois, on commence un peu à fatiguer. Ça, j'ai peut-être pas arrivé jusqu'au bout. Mm. Et après, on dit merde, finalement, j'étais un peu trop motivé à un moment donné. Et voilà. La compétence, on l'apprend avec on l'acquit avec en pratiquant au fur et à mesure des années. Après, il y a tout ce qui est des techniques commerciaux, c'est-à-dire que j'achète mes intrants à des coopératives. Donc, eux, ils ont
des conseils.
Voilà. Alors, pas toujours, parce qu'ils sont quand même. Ils sont quand même.
Ils produit, quand même.
Voilà, ils sont quand même intéressés, on va dire. Donc, ils sont là pour vendre des produits, pour vendre des trucs. Ils sont là aussi pour vous aider à résoudre des problèmes, parce que quand on va acheter quelque chose, c'est qu'on a un problème à résoudre. C'est pas pour le plaisir d'employer des intrants pas bio ou toxiques, c'est parce qu'on en a besoin, tout simplement. Surtout que moi, j'ai pas connu. Alors, pour en revenir en arrière, moi, quand j'ai fait mes études d'horticole, on nous parlait des produits, tout ça, mais c'est vrai qu'on ne nous a jamais parlé de la toxicité, par contre. Moi, pourtant, c'est pas vieux, hein, en 90, on ne nous a jamais parlé de dire attention, quand vous passez, c'est dangereux, si là.
Y compris pour vous.
Voilà, pour moi, oui.
Pour le voisinage ou pour éventuellement.
Pour le voisinage aussi, et pour le consommateur aussi, malgré quand même, il y avait quand même, quand vous employez un produit, il y a l'usage, il y a les nombres de les respecter, de récolte, tout ça. Mais c'est vrai qu'on nous a, personnellement, je ne me rappelle pas qu'on nous ait parlé de la toxicité des produits. Donc moi-même, quand j'ai commencé à bosser, j'ai pas toujours pensé à moi.
Ouais.
Bon, je suis encore là, 46 ans. Voilà, c'est venu après. C'est venu après, et c'est venu bien après d'ailleurs. La prise de conscience de la dangerosité des produits.
Et ça, c'est venu pas forcément des commerçants, de ceux qui commercialisaient ces produits, mais plutôt de la société civile.
De la
chambre aussi.
Comment on dit, des pouvoirs publics.
Les clients, vous avez vu aussi des gens commencer à demander les pratiques.
Alors pour revenir, toujours pareil, pour revenir en arrière, moi quand j'ai commencé à travailler, donc les gens achetaient un prix. Moi quand j'ai commencé à bosser sur les marchés, on était 2-3 à vendre notre production. Et après il y a tous les primeurs qui sont là pour vendre tout ce qui vient de partout et d'ailleurs. Mais les gens achetaient, si je vendais un article à tel prix, si à côté un primeur vendait le même article qui venait à l'époque de n'importe où, à moitié prix, je peux vous dire que moi à côté je ne vendais pas. Même que ce soit moi qui l'ai produit, qui soit de l'escure, je ne le vendais pas. Il fallait que je sois au même prix. Voilà. Les gens achetaient un prix, et encore, ça existe encore, hein, les gens achètent encore un prix. Les mentalités changent. Les gens se soucient parce qu'on leur tarabuste, on leur inculque. Oui, tout le monde n'a pas les sous pour tout acheter. Mais les mentalités évoluent, ouais. Ils se soucient de l'origine. Si c'est bio ou pas bio. Bon, moi je dis clairement aux gens, je ne suis pas bio. Après, je suis végétarien. Ce que je produis, je le mange. Ouais. Donc voilà, moi je ne mange pas de viande, je suis végétarien et je mange mes salades, je mange mes tomates. Mm-hmm. Même si je sais que j'ai mis des intrants, je sais que j'ai respecté le dosage à l'hectare, que j'ai respecté le délai avant récolte. Et si j'en mange, c'est que. Voilà. C'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien que les gens se soucient davantage de l'origine. Après, le problème aussi, c'est que les gens ne comprennent plus rien. La majorité de la clientèle n'ont plus de pied dans la culture. Ils n'ont plus de papy, de papa, de tonton, ou qui ne jardinent pas. Donc les gens ne comprennent plus rien. Donc souvent, les gens ils demandent l'impossible. Il faudrait qu'on ait de tout le temps, en permanence, en quantité, comme les gens. Il faudrait qu'on ait le principal, le souci du métier, ce qu'il faut faire ce que les gens veulent, quand ils le veulent, au prix qu'ils le veulent et à la quantité qu'ils veulent. Voilà. Et le maximum de produits de diversité possible. C'est très compliqué. Faire pousser un légume, c'est très simple. En faire pousser une diversité et être toujours en adéquation avec la demande du client, c'est compliqué.
Oui, surtout quand les supermarchés les habituent à avoir des produits qui viennent d'ailleurs et qui donnent l'impression qu'ils ont poussé ici, mais qui
sont en saison. Il y a que les modes de change, il y a le climat qui influe sur la consommation. Et donc les gens souvent sont déçus parce que je suis régulièrement en arrêt de réflexion, et pas forcément que des jeunes, mais je veux dire, même les jeunes sont mieux maintenant que les anciens. Des anecdotes où une mamie qui marchait à Carmaux, qui en plein mois de janvier, parce qu'il faut expliquer que je vends de la production, mais je vends aussi, pour avoir un étalage un petit peu intéressant, je fais aussi du négoce en légumes. C'est-à-dire que j'achète quand j'ai, selon les saisons, pour maintenir un petit peu de diversité, j'achète des trucs que je revends, que je ne produis pas.
Vous achetez
un grossiste. Voilà, j'achète un grossiste. D'ailleurs, la forme juridique actuelle, c'est plus un GAEC, c'est une SARL.
D'accord.
Mais une SARL affiliée à MSA, une SARL mixte. C'est-à-dire que dans ma compta, je différencie production, plan potager parce que j'en fais, et commerce en fruits et légumes. Mm-hmm. Enfin, en légumes, parce que il y a des fruits, je n'en vends pas. Et donc il a mamie en janvier, elle me dit, mais quand même, vous pouvez vendre davantage de légumes du coin quand même. Et je dis, madame, on est en janvier. Elle me dit, vous regardez, les aubergines, les courgettes sont d'Espagne. Je dis, madame, on est en janvier. Oui, mais quand même, elle me fait comme ça. Elle n'a même pas réalisé la bêtise qu'elle me sortait, la mamie, quoi. Parce qu'elle ne comprenait pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a des légumes d'été, qu'il y a des légumes d'hiver, et qu'on ne peut pas interchanger les saisons, et que c'est comme ça.
Ouais. Oui, et que l'Espagne, c'est pas la France.
Et voilà, et que l'Espagne, c'est pas la France, et voilà. Voilà. Mais les mentalités changent, la clientèle jeune est beaucoup plus intéressante à mon goût. Ils regardent moins le prix, parce que peut-être qu'ils ont un niveau de vie plus élevé, des revenus plus élevés, ou des priorités plus élevées, plus différentes aussi.
Une histoire de budget.
Voilà, de budget, de priorité aussi, ou de mentalité. Non, je dirais, on va dans le bon sens. Personnellement, c'est quand même plus. On s'en valorise un peu plus. C'est plus motivant. Malgré que le prix reste quand même le facteur d'achat aussi, quand même.
Ouais.
Voilà. Moi, je vois des collègues qui vendent hors de prix parce que c'est local. Bon, faut pas non plus pousser dans l'excès.
Ouais.
Mais voilà.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai le sel de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Fournir comme il en a été question dans l'Albigeois justement avant d'arriver à l'autonomie alimentaire, mais des cantines, des cuisines centrales pour des maisons de retraite ou des choses comme ça. Commencer par ça pour que déjà la production soit écoulée localement et travaillée par des cuisiniers, etc. Est-ce que ça serait une bonne idée ou est-ce qu'il y a des pièges là-dedans?
Après, alors, quand vous avez une entreprise, vous adaptez votre production à votre mode de commercialisation. Mmh. C'est-à-dire que tout ce que je plante, tout ce qui est cultivé, je sais que c'est vendu, puisque, comme je vous dis, ça sert à rien de produire. Enfin, moi, j'ai mes trois marchés hebdomadaires.
Ça ne se stocke pas, quoi.
Voilà, ça ne conserve pas, ça ne se stocke pas. Et puis, le principal souci, c'est d'arriver à produire ce qu'il faut quand il faut, quoi, et en quantité qu'il faut. Donc, moi, j'ai mes trois marchés hebdomadaires que je connais bien, que je maîtrise bien. Donc, en fait, je produis en fonction de ce que je vais vendre. Je m'amuse pas à planter plus d'un article si je sais que je ne vais pas pouvoir le vendre. Tout ce qui est planté, calculé, compté, d'entrée, je sais que c'est telle quantité. En plus, selon les saisons, ça évolue. En salade, selon si c'est le printemps, si c'est l'été ou l'automne ou l'hiver, je modifie mes quantités parce que je sais que la consommation évolue. Donc mon système de production est adapté à mon système de commercialisation et je ne peux pas évoluer autrement parce que s'il me fallait fournir une cantine, actuellement je ne pourrais pas la fournir.
Voilà. Il faudrait se mettre à une sorte de coopérative.
Voilà, il faut être plusieurs. Parce qu'après, il faut plus de main-d'œuvre, il faut plus de. Mais le principe, comme on vous dit, d'installer des jardins, c'est très bien. Voilà. Moi, actuellement, si on me l'avait proposé, pour le moment, ça ne m'intéresse pas, puisque je ne cherche pas à faire plus. Oui. Voilà, puisque ce n'est pas mon objectif. Voilà. Actuellement, tel que c'est en place, c'est adapté à ce que je vends. Et je ne peux pas faire plus.
Si vous aviez un ou plusieurs conseils ou peut-être des pièges à éviter pour des gens qui se lancent, qui ne sont pas forcément fils ou filles de maraîchers ou de jardiniers, des conseils comme ça ou des pièges à éviter que vous auriez vous évité ou dans lesquels vous êtes tombé.
Des pièges. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'a toujours dit que dans ma compta, il fallait pour qu'une entreprise soit sécurisée financièrement, il faut avoir des rentrées d'argent finales. Hebdomadaire et pas avoir des rentrées d'argent saisonnières. Après, c'est savoir ce qu'on veut faire. Si la vente directe ou la vente en demi-gros ou en gros, pour moi, c'est deux métiers différents. Le système de vente en gros, quand j'ai commencé à bosser, c'était très compliqué, donc ça ne m'a jamais intéressé, puisqu'il y avait le souci des prix, râle pas crête.
C'est la concurrence qui faisait baisser les.
Oui. Non, j'ai jamais voulu travailler avec les grandes surfaces, pour être clair, parce que je n'aime pas les grandes surfaces. Ouais. Je n'aime pas leur raisonnement, même s'ils tirent toujours leur couverture de manière à faire croire qu'ils sont.
La communication, ils savent.
Voilà, leur communication, c'est leur. Leclerc qui va un marqué dessus produits locaux depuis 1960, blablabla. Et puis. Et puis même encore, si vous avez été voir Sier, il a bien dû vous dire Sier que quand il fait ses tomates, il y a des saisons où Leclerc n'en veut pas, parce qu'il y a un trou moins cher ailleurs. Voilà, je viens de vous dire. Et en salade, pareil, Leclerc lui demande, bon, mais tu me fais les salades, comment tu me les vends? Ah non, mais l'autre, il me les vend moins cher, elles viennent d'ailleurs. Oui. Ah ben, je ne me les fais pas ce prix-là, je ne te les prends pas. Voilà. D'ailleurs, de temps en temps, ils mettent les gros panneaux locaux pendant c'est la stratégie commerciale pendant 15 jours, du coin, puis après, au bout de 3 semaines, c'est fini, il n'y en a plus. Ouais. Et puis de temps en temps, ils reviennent, et voilà. Et puis, je peux même vous dire jusqu'où ils vont. Moi, j'ai été au Leclerc du séquestre, parce qu'ils achètent un petit peu, ou ils achetaient, je ne sais plus, à Combes, Francis Combes, c'est un maraîcher sur l'Escure. Et j'ai été au Leclerc du séquestre, il y avait la grosse pancarte maraîcher, Combes maraîcher à l'Escure. Vous cherchiez, il n'y avait pas l'article de chez lui. Il y avait la grosse pancarte, mais il n'y avait pas l'article de chez lui. Voilà. Ouais. Moi, c'était comme je vous dis, quand on bossait en famille, on comptait pas les heures. Et puis moi, j'étais plus jeune, donc j'étais plus motivé. Mon ex-femme était motivé aussi. Et donc, on ne se pose pas de questions, en fait. On a envie, on a tout simplement envie. Normal, quand on est jeune, si on n'a pas envie, c'est pas la peine. Et je vous dis, j'ai vécu pendant 20 ans rien que pour mon travail, du lundi au dimanche. J'ai mangé travail, dormi travail et bossé tout le temps. Mais ce, je ne regrette rien, ça m'a plu, ça me plaît encore. Et voilà. Et après, conseiller quelqu'un, c'est difficile de conseiller. Chacun le sent, quoi. C'est difficile. Enfin, moi, j'ai fait comme je l'ai senti. Voilà.
L'attitude à avoir, par exemple, moi, j'ai M. Terral là, qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de jalousie. Alors, c'était à l'époque de. Comment on gère les jalousies entre voisinages?
Je l'ai connu aussi parce que, pareil, pour revenir à quand j'ai commencé à bosser, il y avait des anciens maraîchers, que je ne donnerai pas les noms, qui faisaient la vendrette comme moi, et qui, eux aussi, en fin de carrière, avaient aussi baissé leur voilure. Donc ils étaient tous prêts à m'acheter. Ouais, mais si tu m'en fais, je t'en prendrai. Mais quand je ne leur faisais, ils ne m'en prenaient pas. Ouais. Parce qu'il y avait à la fois une sympathie et à la fois une jalousie. Mmh. C'est-à-dire que ça les embêtait de m'acheter en fait. Mmh. Voilà, donc j'ai vite compris que tout ce qui était demi-gros, ce n'était pas la peine.
Ouais.
Voilà. Ou une fois que
j'ai. La vente directe, vraiment, c'était plus,
voilà.
Plus
oui,
clair pour beaucoup.
Voilà, c'était plus clair. C'est. Et puis, j'aime le contact clientèle. Voilà, j'aime les deux. Par contre, c'est difficile à gérer les deux parce qu'on n'est pas partout. Quand on est d'un côté, on n'est pas de l'autre. Mais j'adore le contact clientèle. J'adore mon métier de jardinier. J'adore la production. J'aime les deux. Seulement, le problème, c'est que les deux additionnés, ça fait lourd. Ouais. Et les semaines passent et on est souvent dépassé. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous.
Merci encore à Eric Viala et à sa famille pour leur accueil chez eux à Lescure d'Albigeois. Le 19 juillet 2020, c'était le second épisode de cette rencontre. Merci pour la musique à Sigur Ross, Ridan et son souhait d'être agriculteur, et au groupe occitano-toulousain La Peau. Ce petit portrait sonore a été fait dans le cadre du projet Mémoire du maraîchage de l'association Albi Ville Comestible, rebaptisée depuis Terre Citoyenne Albigeoise. Merci à toute l'équipe de cette association. Merci enfin au conseil et au soutien de l'association La Talbert, à retrouver sur internet talvera.org. Merci aussi à la Fondation de France.